Bonjour à tous, on va commencer si vous le voulez bien. Donc vous me connaissez, vous savez qu'au plus tard à 3 heures, l'heure de la libération sonnera. En attendant, on va parler aujourd'hui de Taylor et de l'Organisation scientifique du travail. Ça sera une sorte de contrepoint, vous, si dans vos souvenirs embrumés par les vacances, vous vous souvenez de ce que j'avais raconté juste avant les vacances, c'était très général. On va partir de généralité sur la question du travail et on va donner quand même un fort coup de projecteur sur ce qu'il est convenu d'appeler le taylorisme ou encore l'organisation scientifique du travail. C'est un ensemble de principes, de méthodes de rationalisation du travail en usine, mais aussi en bureau, en fait, et aussi de tas d'autres choses, parce que, par exemple, Taylor, ça a eu une incidence assez directe sur la cuisine moderne. Curieusement, enfin, la cuisine au sens la pièce, les dimensions, les normes, etc. Donc, on va parler un peu de ce système dont on annonce régulièrement la fin, mais qui semble renaître de ses cendres lorsqu'il disparaît quelque part. Il semble renaître ailleurs. Alors, on va aussi utiliser un peu le cinéma. Donc, s'il n'y a pas trop de brouhaha, je vous projetterai 3 extraits de films pour essayer d'illustrer un certain nombre de points liés à la question du taylorisme. Je vous projetterai un film de René Clair, un extrait évidemment, sinon on y est encore ce soir, un extrait des Temps modernes de Chaplin, et puis enfin un extrait de Jour de fête de Jacques Tati. Je vous présenterai un petit peu plus en détail les choses. Alors le taylorisme, c'est une bonne illustration de ce qui a été un des leitmotifs dans ce cours jusqu'à présent, c'est de dire que les sciences et les techniques, c'est pas neutre. Il y a du social et du politique dedans. Et on va voir que Taylor, ça a eu une influence énorme sur les conceptions de la vie en société, du travail, mais aussi finalement de ce qui fait agir les hommes et les femmes. Ça a eu une conséquence énorme, et ça a eu une conséquence énorme, notamment en France. La France est un des pays qui a été le plus taylorisé. Je dirais que les négociations sociales en France portent encore la marque de l'influence du taylorisme. J'y reviendrai. Je pense que comprendre le taylorisme, c'est aussi comprendre pas mal de choses de l'histoire française après la Seconde Guerre mondiale et dont certains effets se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Rien de plus tayloriste, d'ailleurs, à cet égard. Je ne sais pas si vous êtes bon. Vous vous souvenez du président Sarkozy. C'est un peu après Jeanne d'Arc et un peu avant Macron. Sarkozy avait eu cette formule « travailler plus pour gagner plus ». En fait, c'est du Taylor à l'état chimiquement pur. Taylor, il dit pas autre chose au début du XXe siècle, travailler plus pour gagner plus. Donc on va voir à quoi ça correspond à l'époque, etc. Et en quoi, en fait, ça va marquer très durablement, encore une fois, le monde du travail. On a de grandes difficultés aujourd'hui, en fait, à sortir des cadres tayloriens, notamment dans les négociations salariales entre patronat et syndicats. Alors le plan de la séance, on va commencer par des généralités sur la naissance d'abord de la notion moderne de travail, parce que je crois que c'est bon de comprendre, de même que le travail mécanique n'a pas toujours existé, le travail au sens, aujourd'hui, on a des ministères du travail, etc., c'était pas une notion qui allait de soi il y a encore 2 siècles. Donc on va parler de ça. Ensuite, je vais vous parler de la rationalisation de la production manufacturière avec des problèmes que vous êtes sans doute jamais posés, mais par exemple, la standardisation des pièces dans les manufactures, des questions comme ça, qui en annoncent. Alors on verra que la France joue un rôle à la fin du XVIIIe siècle assez pionnier. Et puis c'est surtout ce qui va permettre aux États-Unis d'avoir une industrie qui décolle à la fin du XIXe siècle. Industrie que va donc tenter de rationaliser Taylor à l'extrême fin du XIXe siècle. Donc je vous parlerai de Taylor, un peu une courte biographie, en quoi ça correspond à un moment particulier dans l'histoire industrielle, etc. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans l'organisation scientifique du travail en regardant, qu'est-ce qu'il raconte Taylor et c'est quoi le taylorisme, etc. Parce que je pense que c'est quand même pas inutile de savoir ce que c'est, un peu dans le détail. Donc on va parler de ça. Puis là, à ce moment-là, je vous projetterai donc 2 extraits de films, parce que le cinéma a très rapidement parlé du taylorisme. C'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchira un peu. Et puis ensuite, je vous parlerai de la diffusion des idées de Taylor, parce qu'en fait, c'est un système qui a eu une influence mondiale, c'est-à-dire la Russie, par exemple, de Lénine, la Russie des Soviets, s'est voulu tayloriste. sans état d'âme particulier. Alors, j'essaierai aussi de vous donner quelques éléments sur la différence entre le taylorisme et le stakhanovisme. Ça vous dit encore quelque chose, le stakhanovisme? Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de stakhanovistes à l'école des ponts, mais on parlera de ça, qui a été en fait une version un peu dénaturée du taylorisme. Je vous parlerai de la France, évidemment. Et puis, à propos de la France, je vous projetterai un extrait d'un film qui a été adoré par toute une série de générations et qui va vous paraître parfaitement ringard. C'est un film de Jacques Tati, qui s'appelle « Jour de fête », mais qui est intéressant parce que Tati témoigne d'une compréhension extrêmement fine de ce qu'est le taylorisme, et en fait, et notamment de la relation entre les États-Unis et la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc on reparlera de tout ça, et puis enfin, on se posera la question, parce qu'on parle volontiers de la fin du taylorisme, voire même, vous avez aujourd'hui des prophètes de la fin du travail, on va tous avoir un revenu minimal et on ira à la pêche. Où est-ce qu'on en est sur ces questions? C'est un peu ça. Donc je pense que c'est quelque chose d'utile à connaître pour des gens comme vous. Et je dirais, même si vous ne faites pas des carrières classiques d'ingénieur, c'est important à connaître. C'est pas toujours, encore une fois, une histoire hilarante, mais c'est une histoire intéressante à connaître. Alors donc, film, René Clair, « À nous la liberté ». Le premier extrait de film. Ensuite, je vous présenterai évidemment Charlie Chaplin, Les temps modernes. Et puis enfin, Jour de fête de Jacques Tati. Il y en a qui connaissent Tati encore parmi vous? Ouais, c'est pas l'écrasante majorité. Ça a été une des grandes stars des réalisateurs français des années 60, etc. Bon, Jour de fête, c'est plus ancien. Ça date vraiment du sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un film qui est... Bon, alors, vous verrez, c'est insupportable par moments, parce que les gars parlent encore avec un accent, qui était en fait l'accent rural de pas mal de régions de France jusque dans les années 50-60. Alors, ça va vous paraître aussi faux que Marie-Antoinette et ses moutons, mais il y avait en fait un fond de vérité à l'époque. Le côté crasseux aussi des villages français, je puis vous certifier que aujourd'hui les villages français, on dirait qu'on les a tous passés à l'Ajax ammoniaqué, mais... jusque dans les années 60, c'est assez véridique. Donc vous verrez, c'est une France qui n'existe plus, finalement. Et puis là-dedans, la rationalisation des tâches, c'est un des thèmes. Alors on va parler d'abord de la naissance de la notion moderne de travail, parce que le système Taylor, ça naît donc encore une fois fin 19e, début du 20e siècle. Ça va s'appliquer dans une large part du 20e siècle, mais ça s'enracine dans des transformations plus lointaines, et qui, d'ailleurs, ont des liens avec les sciences et les techniques. Je vais y revenir dans un instant. Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on dit le travail... Les communistes nous ont habitués, par exemple, à cette expression « les travailleurs », etc. Bon, c'était pas une notion naturelle avant. On n'imaginait pas qu'il y avait quelque chose de commun entre le boulanger, le maçon et l'artisan horloger, voire le manœuvre, simplement. C'était pas quelque chose d'absolument naturel. Avec l'idée que dès qu'une tâche étant un tant soit peu qualifiée, elle était protégée jalousement par ses détenteurs avec des secrets de métier. Il y avait des métiers, il n'y avait pas le travail, des métiers, et des métiers qui avaient tendance à protéger, finalement, leur savoir-faire. Un exemple, c'est des choses aujourd'hui qui ont presque disparu, sauf chez les compagnons. Enfin, avec le chantier de Notre-Dame, on va voir ça à nouveau un peu réémerger. C'est ce qu'on appelait la coupe de la charpente et des pierres. C'était en fait déterminer géométriquement la forme, par exemple, des pierres dans une voûte ou la forme de certaines poutraisons un peu complexes. Alors, il y a des tas de cas où c'est simple, mais il y a des cas où c'est horriblement compliqué. En fait, c'est de la géométrie projective avant la lettre, et en fait, les gens faisaient ça empiriquement. Ils faisaient ça très souvent sur le site même du chantier, c'est-à-dire ça, c'est par exemple un chantier de cathédrale, une cathédrale, et vous voyez encore, si vous regardez au sol, les traits, en fait, c'est les tracés que faisaient les maîtres maçons pour tailler les pierres. Donc en fait, ils taillaient la pierre au pied de l'arc-boutant, et c'était des trucs absolument secrets, c'est-à-dire on se transmettait, parce qu'en fait, c'était à base de projection, avant que les mathématiques savantes se soient emparées de la question des projections. Et donc, en fait, c'était des trucs, des secrets de métier. Les boulangers, c'était pareil. Chacun avait ses trucs qu'on se transmettait, donc, à l'intérieur des structures professionnelles. Alors, avec une réglementation très protectionniste, le travail, tel qu'on l'appellerait aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice des métiers, était régi par la coutume, et je vais revenir dans un instant sur ce que c'est que la coutume, et puis par l'organisation corporatiste du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, corporation, ça a encore un terme, ça fait un peu péjoratif. Quand on dit de quelque chose que c'est une corporation, ça fait un peu discours de Macron sur les cheminots, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire privilège indu, etc., etc. En fait, c'est un héritage de la longue bataille de l'État contre les corporations, mais on va voir que c'est pendant longtemps assez ambigu. Alors, commençons par la coutume. La coutume, c'est les us et coutumes, c'est les façons de faire. Alors, les façons de faire, ça va depuis le droit, par exemple, comment ce qui régit le droit du mariage. Ce qui régit le droit de la construction. Par exemple, à Paris, vous savez que vous n'avez pas le droit, normalement, en France, d'avoir une fenêtre qui donne sur le jardin de votre voisin si elle est en dessous d'1,80 m. Pourquoi? Sauf si elle est là depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui vient de ce qu'on appelait la coutume de Paris et qui prescrivait 6 pieds. 6 pieds, ça fait 1,80 m, c'est passé directement dans le droit de la construction moderne. Alors là, les us et coutumes, ça prescrivait aussi, par exemple, la bonne façon de faire la boulangerie, de la charpente, des tas de métiers, etc. C'était les lois générales. Alors, vous pourrez noter, c'était un monde dans lequel extrêmement fragmenté. Dans le Sud, ça se passe plutôt mieux que dans le Nord, parce que dans le Sud, à partir du Moyen-Âge, ce qui remonte progressivement et s'impose comme coutume locale, c'est en fait le droit romain, qui avait été complètement oublié, qu'on redécouvre. Dans le Nord, vous noterez qu'il y a quelques grandes aires coutumières comme la Bretagne et la Normandie. Et puis le reste, c'est un espèce de fouillis-fouilla de zones coutumières, ce qui veut dire qu'il n'y a pas les mêmes règles. Construire à Auxerre et construire à Paris, ça ne se fait pas exactement pareil. Les règlements ne sont pas les mêmes, etc., etc. Alors ça s'ajoute les corporations. Les corporations, les métiers un peu sophistiqués, charpentiers, même plâtrier, carreleur, peintre, boulanger, pâtissier, etc. Pour avoir le droit d'exercer dans une ville, il fallait être reçu dans la corporation de la ville, qui avait un nombre limité de places. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir, s'il y avait la corporation des boulangers qui comportait 200 places dans une grande ville, il n'y avait pas place pour 201 boulangers. Et pour être reçu boulanger, en général, il valait mieux avoir un père qui était déjà boulanger. Et en fait, on a passé des examens pour être reçu maître dans la corporation. Donc en fait, vous étiez à toute votre vie ouvrier d'un maître, etc., si le gars avait une entreprise de quelque ampleur. Du coup, si vous étiez boulanger à Paris, vous ne pouviez pas aller faire du pain à Dijon. Parce qu'il n'y avait pas seulement la coutume, il y avait aussi la corporation qui n'était pas la même. Donc, en fait, il n'y avait pas de marché du travail unifié. Tout ça, ça paraissait invraisemblable qu'on puisse un jour aller travailler n'importe où. Bon, si vous étiez le clampin qui casse picon, par exemple, ça vient du gars qui avait une pioche et qui cassait des cailloux. Donc, vous voyez, je fais des progrès dans l'échelle sociale au fil des siècles. Bon, si vous étiez un picon, par exemple, bon, vous pouviez aller casser des cailloux à Dijon ou à Paris, ça importait peu. Mais par exemple, ma femme s'appelle Lefèvre, et les Lefèvres, c'était des Lefébures, c'est des forgerons. Et bien ça, c'est plus chic, et vous ne pouviez pas être forgeron a priori n'importe où. Et encore plus si vous étiez charpentier, maçon, etc. Vous vous rendez compte qu'en fait, les choses étaient réglementées, à part vraiment le bas de la pyramide, si vous voulez, sociale, des métiers. Donc évidemment, l'idée d'un marché du travail, une école comme ici où vous avez vocation à aller n'importe où en France, eh bien ça n'avait pas de sens. On apprenait localement, on exerçait localement, etc., etc. Alors, évidemment, très tôt, en fait, il y a deux catégories de personnes que ça énerve, ça. Il y a d'une part les États, parce que les États monarchiques, en fait, ils ont très longtemps une espèce d'attitude un peu ambiguë. D'un côté, les corporations, tout ça, ça fait partie de cette espèce de régime d'ordre, de structure de l'ancien régime. Donc, l'État protège, le roi protège les corporations. D'un autre côté, ça énerve le roi parce qu'on ne peut pas lancer de politique technique, etc. Donc c'est agaçant. Puis les corporations, ça s'oppose à l'idée de progrès. L'idée d'innovation, c'est une idée plutôt négative. Si on a toujours fait le pain d'une façon, de telle façon à Dijon, on ne va pas innover. Si on a toujours fait les assemblages de bois de telle façon à Paris, eh ben, c'est pas bien d'innover. Innover, en général, ça veut dire se livrer à des inventions dangereuses. Donc, vous voyez, un truc très protectionniste. Donc, du coup, comme les États, eux, ils veulent très tôt faire progresser les échanges, le commerce, les sciences, les techniques, etc., ils sont très ambivalents à l'égard des corporations. Et puis il y a une autre catégorie de gens qui sont ambivalents, qui sont les premiers experts, on pourrait dire, c'est-à-dire les savants dans les académies, qui n'aiment pas toutes ces histoires de secrets de métier, ça les agace, etc. Et puis les architectes, les premiers ingénieurs, tout ça les énerve, cette histoire. Surtout qu'ils pensent que derrière ça, il y a des principes scientifiques généraux et qu'on gagnerait à faire la clarté sur ces trucs-là, à publier, à échanger les idées, etc. Donc vous voyez, avant l'économie de la connaissance d'aujourd'hui, il y a déjà une espèce de conflit entre le monde des métiers, conflit latent, et le monde, finalement, à la fois de l'État, mais aussi des élites scientifiques et techniques. Ça se voit très bien dans le domaine, par exemple, de la coupe des pierres et du bois. Alors, l'État va faire plusieurs choses. Il va conserver les corporations pendant un temps, parce que j'oubliais de le dire, les corporations, ça rapporte plein de blé au roi. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau maître qui est créé dans la corporation, il doit payer un impôt au roi. Pour avoir sa charge, pour devenir boulanger, eh ben, faut raquer et payer au roi de l'argent pour être reçu dans la corporation. Donc le roi, il aime bien, comme tout le monde, tous les gouvernements, ils aiment bien recevoir de l'argent. Donc on touche pas trop aux corporations. Mais enfin, c'est quand même casse-bonbon parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et du coup, ça explique une chose en France, c'est ce qu'on appelle les manufactures, la création des manufactures comme les Gobelins, vous en avez entendu parler, Saint-Gobain sous l'Ancien Régime. C'est des endroits, en fait, qui sont hors droit des corporations. C'est comme des trucs extraterritoriaux où les règlements des corporations ne s'appliquent pas. Aux Gobelins, par exemple, ça c'est le roi qui rend visite à la manufacture des Gobelins, eh ben, on suit pas les secrets des métiers. Par exemple, Molière, vous pensez à Molière comme dramaturge, etc., comédien. En fait, Molière, c'est en fait un gars fort riche parce que c'est un héritier d'un des maîtres tapissiers de Paris. Et en fait, les tapissiers, c'est des gens qui ont pas mal de blé. C'est les gars qui s'occupent du décor intérieur. Ils s'occupent pas seulement de tapisser. Ils s'occupent, en fait, d'achats de meubles, de tas de choses, etc. Et Molière, toute sa vie, se gardera bien. Il restera valet tapissier du roi. Et il se gardera bien d'abandonner cette charge parce que c'est, en fait, prestigieux dans les hiérarchies d'Ancien Régime, etc. Alors, attitude ambivalente. Ceux qui aiment aussi pas donc ce monde-là, c'est les savants, les premiers ingénieurs, etc. Du coup, ils essayent de publier. Par exemple, le premier architecte qui publie un traité d'architecture en France, un gars qui s'appelle Philibert Delorme, eh ben, il va expliquer c'est quoi le secret du trait de coupe des pierres, comment ça marche. Et c'est le premier. Alors ça peut vous paraître abscon. C'est une façon, c'est pour tracer des voûtes un peu complexes, des voûtes même très complexes. C'est en fait des voûtes gauches. Assez compliqué. Et en fait, Philibert explique, bah, voilà comment on fait. Il n'y a rien de secret là-dedans. La preuve, je le publie. Et du coup, d'ailleurs, il va avoir d'assez fortes frictions avec le monde des maçons, qui est des maîtres maçons, qui n'est pas du tout content de ce genre de choses. Et en fait, l'héritage lointain de tout ça, à partir de ça, c'est en fait ce qui va donner naissance à la géométrie descriptive. La géométrie descriptive de Monge à la fin du XVIIIe siècle, sur laquelle on va asseoir l'école polytechnique, mais qu'on va pratiquer dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est un lointain héritage de l'usage de ces projections dans la coupe des pierres et des bois. Et Monge, en fait, avant d'être professeur à Polytechnique, est professeur de coupe des pierres à l'école du génie de Mézières. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce de généalogie de la divulgation des secrets de métier qui arrive, en fait, jusque à la création des écoles d'ingénieurs. Alors, promotion de l'innovation et puis réflexion sur la place des sciences et des techniques sous une forme un peu générale dans les métiers, c'est une question qui va ne faire que s'amplifier. Et le XVIIIe siècle, je l'ai déjà mentionné, c'est un siècle, c'est un moment charnière où, en fait, commence à émerger l'idée qu'il pourrait y avoir, au fond, un cadre commun à l'ensemble des arts et des métiers concrets. L'encyclopédie va jouer un rôle énorme en faisant deux choses. La première, c'est continuer cette espèce de travail de divulgation dans les détails, c'est-à-dire l'encyclopédie va décrire toute une série d'arts et métiers, les gestes, etc., etc. Et deuxièmement, avec deux idées forces derrière, un, il se pourrait qu'il y ait des principes scientifiques et techniques communs à tous ces trucs-là, qui circulent, par exemple, de l'art de l'épinglier aux mécaniciens, etc. Donc ça, c'est une première idée. Et deux, eh ben, il y a un monde qui est le monde des métiers, qui est un monde qui est unifié par cette notion qui commence à émerger, un peu floue, qu'on appelle le travail. Alors on va réutiliser ce mot qui vient du latin, donc trépalium, qui est un instrument de supplice, avec cette espèce d'idée finalement que le travail c'était quand même une forme de... c'est une bénédiction très relative, mais chez Diderot, il y a la volonté réellement de décloisonner. Avec aussi une autre idée, ce qui vous vous souvenez de Bertrand Gille avec les processus et tout, Diderot bien avant lui a l'idée que finalement... la façon de s'y prendre pour comprendre ce qui se passe dans les métiers, c'est de décomposer en gestes élémentaires, en opérations et puis en processus. Vous voyez par exemple sur la gauche, c'est un geste élémentaire de quelqu'un qui fait du tissage. Et à droite, c'est des séries d'opérations dans laquelle il y a des hommes, mais il y a aussi des machines. Gestes, opérations et processus. Et on va voir que ça joue un rôle dans la genèse des idées tayloriennes. Alors, ce qui se précise à l'époque aussi, c'est que s'il y a ce cadre commun qu'on va appeler le travail, on ne sait pas encore tout à fait exactement toujours de quoi on parle, c'est qu'il y a aussi l'idée qu'on va pouvoir le mesurer. Et là, quelqu'un qui joue un rôle tout à fait important, c'est donc il y a cette idée de travail, etc. Mais il y a cette idée finalement, alors qu'on va pouvoir le mesurer. Alors là, les ingénieurs vont jouer un rôle. Notamment quelqu'un en France dont vous avez tous entendu parler, qui est M. Jean-Rodolphe Peyronnet, à cause des amphis, couloirs et tout ce que vous voulez. C'est le gars dont il y a le buste en amphi Cauchy. Vous savez, tout en bas, le gars en marbre qui a l'air de s'emmerder. En fait, c'était un buste que lui avaient offert les étudiants de l'École des Ponts dans les années 1780. Ce qui explique le patri carissimo familia, c'est au père chéri, sa famille reconnaissante. Vous pouvez toujours essayer de m'offrir un buste en marbre, hein, si ça vous amuse. Mais, vous voyez, à l'époque, on prenait le faillotage, c'est terriblement au sérieux. Peyronnet, il va commencer sa carrière, en fait, en décrivant les épingles dans la ville de L'Aigle, en Normandie. Et en fait, c'est d'un mémoire qui est conservé à l'École des Ponts, sur la gauche, et vous pouvez voir dans l'encyclopédie, et plus tard dans l'encyclopédie méthodique, les mémoires de Peyronnet sont réinjectées directement à l'article « Fabrication des épingles ». Et comme je crois vous l'avoir déjà dit, où parle-t-on de la fabrication des épingles de façon célèbre dans un traité de la fin du XVIIIe siècle ? Premier chapitre. « La richesse des nations » d'Adam Smith, dans laquelle la fabrication des épingles est présentée, et alors là, comme un exemple de division du travail. Donc il y a maintenant ce truc qu'on appelle le travail, qu'on peut diviser, on va retrouver gestes, opérations, processus, etc. Et bien, ça s'introduire du coup l'idée de division du travail, c'est la même chose, etc. Alors, autre idée force, le travail, on peut le mesurer, le compter. Alors Peyronnet, lui aussi, joue un rôle. Par exemple, quand vous voulez fonder des ponts au XVIIIe siècle, ce qui est le truc le moins marrant, c'est de fonder les piles dans la rivière. La technique classique, c'est de faire ce qu'on appelle un batardeau, c'est-à-dire, grosso modo, c'est un barrage avec deux rangées de planches, mettez de la glaise au milieu et vous pompez. Et normalement, quand on pompait, on payait les ouvriers à l'heure pour tourner la manivelle pour la pompe. Alors Peyronnet, qui est un maniaque, du genre un peu pas drôle, va inventer une machine qui est un compte-tour. Pour savoir exactement combien de tours ont donné les ouvriers et les payer exactement au nombre de tours qu'ils ont donné. Alors gardez ça en mémoire parce que vous allez voir que ça va avoir, c'est des lointains ancêtres du taylorisme. Alors dans le genre pareil, une fois que vous avez séché l'eau, vous avez, bon, c'est un peu boueux, mais c'est pas très grave, vous allez faire un truc qui est en fait, pour fonder les ponts, on fait rentrer des pieux qui sont en bois à l'époque, et pour ça on fait tomber une masse de fonte qu'on appelle le mouton. On la lève et on la fait tomber sur le pieu. Bon, aujourd'hui, on fait ça de façon mécanique et puis c'est plus des pieux en bois, mais c'est le même genre de principe. Alors là aussi, on payait les ouvriers à l'heure. Peyronnet, il va inventer une machine pour payer les ouvriers au nombre de coups. Donc, vous voyez, le truc hyper maniaque, pas forcément sympa. Les ouvriers, d'ailleurs, aiment pas trop au départ, quand même, mais lié à quoi? À cette espèce d'idée que le travail est mesurable et qu'on peut le quantifier, et que donc, à partir du moment où on peut le quantifier, on peut le gérer. C'est aussi ça, la grande idée derrière ça. Alors, autre idée qui commence dans ces années-là, c'est l'équivalence avec une notion qui est en train d'émerger en mécanique, qui est celle de travail des forces. Et on commence à s'intéresser à la force des hommes, à la force des animaux. Le cheval vapeur, ça date de ces années-là, c'est qu'on commence à s'intéresser très sérieusement à c'est quoi les efforts que développe un animal, un homme, etc. Et par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, on invente des machines, c'est un dynamomètre qui est destiné à mesurer finalement la force que peut déployer et le travail que peut effectuer un homme, un cheval, etc., etc., des grands sujets d'intérêt de la fin du XVIIIe siècle. Donc un travail qui est plus seulement, pas uniquement unifié, mesurable, mais aussi qui a finalement, qui renvoie aussi à l'idée de travail mécanique, qui est une notion qui commence à émerger à la fin du XVIIIe siècle. Plus tard viendra, dans les années 1840 à peu près, avec Joule, l'équivalence travail-chaleur, mais ça sort un peu du cadre de cette histoire. Alors du coup, à partir du moment où vous avez ce cadre-là, vous dites pourquoi les corporations? Pourquoi toutes ces limitations, les coutumes, les corporations, les limites au droit du travail? Pourquoi on ne peut pas travailler n'importe où? Après tout, la force des hommes, elle est quand même à peu près équivalente n'importe où, etc. Et du coup, on commence à se dire finalement les coutumes, les corporations, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en débarrasser? Et en France, en 1793, la Révolution va supprimer les corporations. Alors on pourrait croire que c'est que du bonheur, comme on dit dans les séries télé, mais c'est pas que du bonheur, parce que les ouvriers, du coup, vont se retrouver tout d'un coup, et le monde des métiers, beaucoup plus vulnérable qu'autrefois. Et par-dessus tout, on en profitera, sous la Révolution, pour interdire toutes les associations ouvrières. Ce qui fait qu'on ne lèvera ces interdictions que dans les années 1880, ce qui fait que pendant une très large partie du 19e siècle, presque tout le 19e siècle, les syndicats ouvriers sont interdits en France. En pratique, on contourne la loi en faisant des fausses associations de bienfaisance, qui sont en fait des syndicats ouvriers sans le dire leur nom, mais en fait c'est interdit de se regrouper parce qu'il s'agit justement de ne pas créer des corporations. Et ça, ça a laissé des traces. Pourquoi, dans le conflit aujourd'hui qui se profile entre la SNCF et l'État, les gars, ils défendent l'idée d'un métier, l'idée d'avantages qui vont avec le métier, l'idée finalement d'un statut social qui va avec le travail. Et les gars qui veulent en finir avec le privilège de la SNCF, je reste parfaitement neutre dans cette question, vous aurez des difficultés à deviner ce que j'en pense réellement, mais les gars qui veulent finir avec le statut des cheminots, c'est la poursuite de ce même processus de destruction, finalement, de structures qui apparaissent, entre guillemets, corporatistes. Et voyez, donc, cette affaire n'est jamais terminée parce que le marché du travail n'est jamais assez fluide, etc., avec des arguments depuis le XVIIIe siècle. Le marché du travail libre, ça permet d'augmenter l'emploi. Un marché du travail prisonnier du hold-up de corporations, ça limite en fait la fluidité et donc le bien-être économique. Donc vous voyez des arguments qu'on va revoir par la suite. Alors le mouvement va être un peu général partout. En France, c'est particulièrement violent. 1793, loi Le Chapelier, suppression des corporations. En Angleterre, les corporations s'affaiblissent progressivement. En Allemagne, il faut attendre le début du 19e siècle. Mais partout en Europe, l'ancien régime corporatiste cède. Ce qui créera des nostalgies pendant très longtemps, lorsque Vichy, par exemple, mais toute l'extrême droite française de l'entre-deux-guerres va vouloir ressusciter les corporations, c'est la nostalgie d'un ordre ancien qui n'aurait pas été du capitalisme sauvage. Curieusement, dans le discours de l'extrême droite française, vous trouvez encore des traces de ça parfois. Vous avez une extrême droite française qui est soit hyper libérale, soit en fait anti-libérale, en disant « il faut restaurer ces corporations qui stabilisaient les choses, qui assuraient la qualité de la production ». Parce qu'il y avait cette idée aussi de qualité. Si vous faisiez appel à quelqu'un d'une corporation, il travaillait selon les bons usages. Vous n'avez plus de garantie dans le monde du travail moderne, etc. Alors, donc, tout, on voit d'ailleurs tout ça, c'est au fondement, quand je vous ai parlé d'Adam Smith, c'est pas un hasard, l'économie moderne, elle va reposer sur l'idée d'un marché du travail. marché du travail unifié, et donc avec toute cette dramaturgie des relations capital-travail. Alors maintenant, j'en arrive à les usines. Parce que dès la fin du XVIIIe siècle, on se dit, c'est pas mal tout ça, mais enfin, compter les tours de manivelle sur les chantiers, pourquoi on pourrait pas faire des trucs un peu pareils dans les usines? Et vous avez donc des gens qui font un peu du Perronet, mais manufacturier. Perronet lui-même, d'ailleurs, avait étudié la production des épingles en se disant, prenons par exemple un truc qu'on fabrique industriellement au XVIIIe siècle, le fusil pour les armées. Eh ben, est-ce qu'on pourrait pas, au lieu de faire ça n'importe comment, avoir un système dans lequel on mesure mieux les tâches, on essaye de comprendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Et puis, grand truc de l'époque, qui aujourd'hui vous paraît particulièrement et absolument naturel, vous avez un machin qu'on assemble, avec une crosse, une gâchette, une culasse, etc. Eh ben, vous avez ce qu'on appelle l'interchangeabilité des pièces. C'est-à-dire l'ouvrier puise une culasse, il se pose pas la question de savoir, etc. Ça n'existe pas jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et en fait, au XVIIIe siècle, on commence à se dire, si on veut faire ça, rationaliser le travail dans les usines, notamment l'assemblage mécanique, il faut que les pièces soient interchangeables. Parce que si le mec, il prend une culasse, il faut qu'il lime pendant 3 heures, etc., comment vous voulez rationaliser le travail? Vous me suivez toujours? Mais en fait, l'interchangeabilité des pièces, c'est extrêmement difficile à faire. C'est extrêmement difficile à faire. Et en fait, on va essayer de rationaliser la fabrication du fusil français à la fin du XVIIIe siècle. On n'y arrivera pas. Grand échec. Et les ingénieurs qui essayent de promouvoir ça, ça foire. Alors en fait, ces idées-là foirent en France fin XVIIIe. Vous vous souvenez vaguement du cours sur les ingénieurs, où je lui dis les gars, les militaires, tout ça, américains, ils sont complètement formés aux idées françaises, etc. Les Amerlocs, les ingénieurs militaires américains reprennent le problème. Et au bout de 3-4 décennies, à Springfield, Massachusetts, dans les années 1840, on réalise enfin l'interchangeabilité des pièces du fusil. Et la manufacture de Springfield est la première manufacture américaine moderne. C'est des gars de West Point qui s'occupent de superviser le truc. Ils sont complètement formés aux idées françaises. Et ils ont en fait hérité ces idées des idéaux technologiques français de la fin du XVIIIe siècle. Sauf que les Français, ils ne sont pas arrivés. Les Américains y arrivent. C'est un formidable travail. Il faut voir derrière ça. Il faut gagner de la précision, gagner du standard. Tout ça, c'est pas évident. Ça va être la base de ce qu'on va appeler l'interchangeabilité des pièces, the American Manufacturing System, le système manufacturier américain, qui va être en fait une des bases du décollage manufacturier américain. C'est-à-dire que les Américains vont être capables tout d'un coup de faire exploser la taille des séries et de produire donc en très très grande quantité, et avec aussi une industrie qui devient une industrie qui boom. Un bon exemple, c'est en fait un monsieur, alors grâce à moi, la machine Singer a encore... Il y en a qui ont connu des machines Singer chez leurs grands-parents. Bon, Singer, c'est Zinger, qui est un juif d'Europe centrale, qui émigre à New York, est plutôt inventif d'un point de vue mécanique et conçoit une machine à coudre plutôt mieux que ses devanciers. Et puis le truc explose. 1853, 800 machines, 810 machines. Mais regardez, en 1876, 23 ans plus tard, 260 000 machines. Et avant l'industrie automobile, Zinger, il va en fait créer une industrie énorme de production de machines, production avec des pièces interchangeables. Et évidemment, l'usine Singer d'Elizabeth Port dans le New Jersey, et d'ailleurs l'histoire boucle, parce que Elizabeth Port, c'est là où le gars des containers fera naviguer ses premiers bateaux, mais c'est en fait la plus grande usine américaine d'assemblage dans les années 1880, donc avant l'automobile, si vous voulez. Et c'est à partir de ce moment-là, alors l'ancien système des métiers se disloque, mais alors Singer, ça devient aussi autre chose, une entreprise mondialisée. En ce sens, ça, c'est des publicités Singer. Grosso modo, on vend des machines à coudre Singer. C'est produit près de New York. On va en vendre de la Thaïlande à l'Angleterre, de l'Espagne à la Russie. On en vend partout dans le monde. C'est assez rigolo, d'ailleurs, parce qu'à peu près dans n'importe quel pays, vous faites un cours sur la rationalisation manufacturière avec, comme exemple, la machine à coudre Singer. Ça dit quelque chose aux gens, parce qu'ils en ont tous vu une, quelque part, chez leurs grands-parents. Donc voilà, là, c'est une petite carte postale avec tout le monde, tous les pays du monde heureux, les United Nations of the Sewing Machine. Et sauf qu'à partir de ce moment-là, l'industrie américaine croît. Dans les années 1890-1890, la croissance est stupéfiante. En 25 ans à peu près, lorsque va arriver la guerre de 14, l'Amérique sera devenue la principale puissance économique et industrielle mondiale, dépassant l'Allemagne, dépassant le Royaume-Uni, etc. Et à la base de ça, ce qui est nouveau, c'est ce système manufacturier nouveau. Sauf que ce système, il a tellement de succès qu'il rentre en crise. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien comment gérer, et il y a une crise de la rentabilité et de l'efficacité des usines. Et c'est là que va intervenir Taylor. Ça correspond à un moment très particulier qui est une espèce de crise de croissance de l'industrie américaine à la fin du 19e siècle. Et le taylorisme, pas lui tout seul, ça va être malgré tout un des instruments pour surmonter cette crise de croissance à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Alors quelques mots maintenant sur Taylor. Personnage assez compliqué, c'est-à-dire que Taylor, en général, dans les histoires un peu marxistes, c'est the very bad guy, il est vraiment pas sympa. C'est vrai qu'il y avait des côtés des fois moyennement sympas, mais en fait, ce qui est curieux, c'est que d'ailleurs un personnage très américain à certains égards, les bons sentiments et les mauvais sentiments font bon ménage. C'est quelqu'un qui naît en 1856 et meurt assez jeune en 1915. Il est issu d'une riche famille de Quakers. Alors le détail a son importance. Les Quakers, vous savez, ils sont pacifistes. Ils sont plutôt des gens qui sont animés. C'est plutôt une secte ou avec des idées plutôt généreuses, etc. Et en fait, Taylor, il veut pas la mort des ouvriers. Il veut pas aller. En fait, ce qu'il veut, c'est améliorer leur sort. Enfin, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est améliorer l'efficacité des usines. Mais il pense, en bon Quaker, qu'il faut que ça soit win-win, comme on dit aujourd'hui. Il faut que tout le monde y gagne. Donc, en fait, le système Taylor, ça va être un système, entre guillemets, win-win, sauf qu'on va se rendre compte assez rapidement que, d'accord, tout le monde y gagne, mais qu'il y a aussi des pertes en ligne assez sévères pour certains, et notamment les ouvriers. Alors c'est beau ensuite comme une histoire de Superman. Comme je dis toujours, ce que j'aime avec les histoires de super-héros, il y a toujours le même truc. Le héros naît, il a des origines modestes en général. On met un certain temps pour découvrir qu'il vient d'une autre planète, de la planète Krypton. Au bout d'un certain temps, il se développe et il fait des trucs absolument magnifiques. Et puis tout d'un coup vient la crise, la chute, et ensuite il y a la rédemption. Et tout le film, les deux tiers du film, c'est la rédemption. Bon, bah, Taylor, c'est un gars qui naît dans une riche famille Quaker. Il se destine à des trucs plutôt huppés, l'école de droit d'Harvard, etc. Et puis, quelque chose se passe. On sait pas très, très bien dans sa vie. Il a des problèmes de vision. Mais enfin, ça explique pas pourquoi. Et il va travailler en usine. Et il commence sur le tas. Au 19e siècle, en général, en Amérique comme en Angleterre, on va pas faire une école d'ingénieur tout de suite. On va travailler on the floor, comme on dit. Donc, dans l'atelier, au contact des ouvriers. Du coup, d'ailleurs, c'est un gars, parce qu'il fait pas qu'un stage ouvrier d'un mois qui lui permet ensuite de pérorer sur les ouvriers pendant le reste de sa vie, comme moi ou vous. C'est quand même un gars qui va se taper des années, en fait, à monter l'échelle, devenir contremaître, etc. Et progressivement, il va prendre des cours du soir et devenir ingénieur. Il prendra des cours du soir au Stevens Institute, qui est une des premières écoles sur l'électromécanique aux États-Unis, et va devenir un ingénieur très distingué. Il aura en 1900, à l'Exposition universelle de Paris, une médaille sur les procédés de coupe rapide des métaux. Et donc, en fait, c'est un gars techniquement très compétent, etc. Il va, en fait, s'intéresser progressivement à l'organisation du travail, qui est un champ absolument neuf à l'époque. L'organisation du travail, je vais y revenir, c'était la chiourme. C'est-à-dire que très grosso modo, l'usine ou la prison, ça fonctionnait un peu pareil. C'est-à-dire on faisait rentrer les gens, on vérifiait qu'ils étaient à leur poste et qu'ils faisaient pas autre chose, et on les fouillait souvent si les trucs étaient précieux à la sortie, pour éviter qu'ils fauchent. Ce qu'on fait encore dans les usines de métal précieux, soit dit en passant. Et puis voilà, c'était tout. Taylor, il va apporter une nette plus-value en termes de réflexion sur l'organisation, finalement, de la manufacture. Et à partir des années 1880, il va réellement élaborer un système auquel son nom... Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'aux États-Unis, Taylorism, ça se dit pas. C'est Scientific Management, qui est d'ailleurs le terme utilisé par Taylor. Et nous, on parle de Taylorisme. C'est ce qui, d'ailleurs, révèle l'aura qu'a eu Taylor dans toute une série de pays en France. Et en fait, il publiera Shop Management, donc le management des ateliers, l'organisation des ateliers en 1903 et surtout les Principles of Scientific Management en 1911. Ça sera quand même un personnage controversé. Le taylorisme, ça pose des questions pas simples dès le départ. Donc maintenant, en fait, on va voir un peu tout ça. C'est qu'est-ce qu'il raconte Taylor? Et puis, on verra comment ça se traduit au cinéma. Enfin, si j'arrive à pas me planter en déclenchant les films. Alors, Taylor, c'est finalement un espèce d'événement. Bon, je vais passer là-dessus, mais on peut se dire, s'il n'était pas arrivé juste à ce moment-là, etc., etc., il y a une espèce de conjonction de facteurs qui fait, bon, quelque chose comme le taylorisme aurait été inventé, mais probablement pas exactement la même chose, etc. Alors, bon, oui, juste sa petite tête. Il n'avait pas l'air particulièrement fun, mais pas non plus particulièrement déplaisant. Hein. Vous noterez, il a un petit côté Robin Williams, un peu ironique. Bon, en fait, c'était pas un mec hyper drôle, hein, mais il faut quand même être honnête. Mais c'est comme ça. Alors, l'organisation scientifique du travail, c'est quoi? Première idée, et ça, ça va faire le succès par rapport à d'autres méthodes, parce que tout le monde, à l'époque, se dit « il faut faire quelque chose, ça marche pas bien, les usines sont pas assez efficaces, elles poussent, mais on perd en efficacité, en productivité, comme on dit aujourd'hui. » Tout le monde se dit « il faut faire quelque chose ». Taylor, sa grande force, c'est de dire « je vais partir de la science et des techniques ». Donc, et du coup, c'est d'ailleurs ce qui va faciliter son adoption, par exemple, en URSS. Importer Taylor, c'est pas importer le capitalisme américain, c'est importer la science et les techniques. Donc ça, c'est un gros truc. Du coup, d'ailleurs, c'est un truc d'ingénieur, au départ. Taylor est un ingénieur, et c'est des idées d'ingénieur qui vont avoir un succès dans le monde du management. D'ailleurs, Taylor sera contemporain, souvenez-vous, je vous en avais parlé, de l'arrivée des ingénieurs dans le management, dont ils étaient jusque-là plutôt absents. Alors, Taylor, en fait, il veut en fait jouer un rôle de médiateur entre capital et travail. Grosso modo, il réalise que les relations de capital et travail, les capitalistes ont tendance à vouloir exploiter au maximum les ouvriers, et les ouvriers ont tendance à en faire le moins possible parce qu'ils sont pas payés pour s'épuiser, etc. Donc, il y a une espèce de tension que Taylor va se proposer de résoudre. Alors, côté ouvrier, Taylor a une vision assez condescendante. Par exemple, il explique, lorsqu'il est auditionné par le Congrès, parce qu'à un moment, on taylorise une manufacture d'armes, et ça se passe très mal. Et du coup, on auditionne Taylor devant le Congrès, et il dit, en fait, les ouvriers, c'est quand même des gars hyper limités. Intellectuellement, c'est pas top, etc. Donc, il explique que le mec qui fait du pig iron, c'est pour décarburer la fonte de fer et produire du fer. C'est quand même un truc qui est... En fait, c'est pas de la rocket science, mais les ouvriers, ils sont tellement pas futés qu'en fait, ils comprennent pas. Sauf qu'en fait, Taylor, il est plus compliqué que ça, parce qu'il trouve... Au fond, il connaît les ouvriers. Il sait que les ouvriers sont pas si cons que ça. Et donc, en fait, il remarque... La grande remarque de Taylor, c'est que en fait, il y a une espèce de logique perverse. Le capitaliste essaye le plus possible d'arracher de la plus-value, comme dirait Marx, à l'ouvrier. Mais l'ouvrier, du coup, ben, il en fait le moins possible. Et Taylor note notamment, parce que ça, il l'a vécu dans les ateliers, que la pratique de ce qu'on appelle le soldiering. Soldier, en anglais, soldiering, ça veut dire le gars qui traîne des pieds. Et donc, en fait, quand vous êtes payé dans un atelier, c'est un truc classique. D'ailleurs, s'il y a un mec qui en fait trop, on lui tape très vite sur les doigts en disant « Mon gars, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous faire tous travailler trop. Merci de ralentir la cadence. » Donc, voyez un peu la logique. Alors, derrière ça, Taylor se dit, finalement, le grand deal, ça va être, finalement, de payer mieux l'ouvrier et, en échange, de lui dire, voilà comment tu dois travailler pour être plus efficace. Et, du coup, le capitaliste, il payera un peu plus l'ouvrier, mais il va se repayer en termes de plus grande efficacité. Donc, voyez, c'est un win-win. Un côté, l'ouvrier est mieux payé. De l'autre côté, le capitaliste, à cause des gains de productivité, va y trouver son compte. Et finalement, avec l'idée, donc, clé, c'est la meilleure efficacité et comment on va l'obtenir. Alors, il y a derrière ça un choix politique majeur, dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est qu'en fait, les négociations sur le travail jusqu'à Taylor, c'était des négociations qui englobaient des tas de dimensions, la qualité du travail, etc. Et le salaire n'était pas l'unique dimension. Après le taylorisme, les négociations entre patronat et ouvriers vont devenir essentiellement des négociations salariales. Et de moins en moins des négociations sur la nature du travail. Avec du coup, clairement, les ouvriers vont perdre une large partie de la maîtrise de leur travail. Les corporations, c'était la maîtrise absolue de leur travail. On ne pouvait pas leur faire faire autre chose et comme on voulait. Après Taylor, les ouvriers, on va leur dire comment on travaille. Et c'est pas à eux de dire comment on travaille. Donc, vous voyez, c'est ça le deal, qui est un peu un pacte avec le diable. C'est que tu acceptes finalement de travailler comme on te dit que tu dois travailler, comme les gens en col blanc vont te dire que tu dois travailler, et en échange, tu seras mieux payé. Et ça va marquer toute l'histoire industrielle moderne, cette espèce de pacte, donc, etc. Ça va d'ailleurs être un des problèmes structurels de l'application dans les pays communistes, parce que c'est un truc qui fonctionne de façon quand même assez américaine au départ sur l'appât du gain. Tu vas te faire plus de fric. C'est Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Mais c'est pas travailler plus parce que tu as envie de travailler plus ou travailler mieux. C'est travailler plus pour gagner plus. Donc c'est une logique tout à fait... Alors du coup, il va y avoir finalement... Alors Ford va reprendre cette idée. C'est la grande idée finalement tournant 19e, 20e. Et je vais vous parler de Ford dans un instant pour préciser les rapports entre le taylorisme et le fordisme. Alors... La grande idée, ça va être finalement que l'organisation du travail, la prescription de comment on doit travailler, c'est une affaire d'ingénieur. C'est pas l'ouvrier. L'ouvrier, il n'a pas à dire vraiment, si, il peut apporter son petit grain de sel, etc. Mais vous voyez, par rapport à toutes les approches qualité aujourd'hui, c'est pas l'ouvrier qui dit comment on doit travailler, c'est l'ingénieur. Et qu'est-ce que va faire l'ingénieur? Eh ben, il va observer le travail tel qu'il se fait. Et puis appliquer ce cadre dont j'ai parlé à propos de l'encyclopédie, les gestes, il va regarder les gestes en détail, est-ce qu'ils sont efficaces, pas efficaces, les opérations, le processus d'ensemble, est-ce qu'on perd trop de temps à, par exemple, démonter un truc et le remonter, est-ce qu'on, etc. Et on va en arriver, alors avec une autre idée très importante, qui est l'idée qu'on va assigner des temps moyens pour des tâches élémentaires. Donc vous voyez l'idée de Perronet, sauf que cette fois, on définit des tâches élémentaires, genre faire tourner la manette d'un quart de tour. Combien de temps il faut? Et le taylorisme, c'est pas un truc frénétique. C'est que Taylor est un mec raisonnable. Il sait que les ouvriers, il y en a des forts et des moins forts, etc. Donc, il cherche des temps moyens. Des temps moyens qui soient pas de la performance, parce que sinon, ça va casser tôt ou tard, et qui soient pas non plus trop longs. Donc, quel est le bon temps moyen, si vous voulez? Et à partir de là, donc, on fait des fiches. Et c'est la méthode Method Time Measurement, c'est en fait les temps élémentaires, ensuite on compose les temps, etc. Et donc on décompose la production. Alors ça donne des trucs un peu maniaques, du genre l'ouvrier, alors on analyse, l'ouvrier vient près de la machine, il enlève la chaîne ou le moule précédent, il remet quelque chose d'autre, combien tout ça, ça prend de temps? Des fois, on va se dire, ça serait mieux si au lieu de déposer le moule, il enlève d'abord la chaîne. Enfin, vous voyez, on verra ça à propos de Tati, qui joue aussi admirablement sur les codes du taylorisme à propos de la façon de faire du vélo. C'est un peu c'est du burlesque, etc. Alors, meilleure méthode de production. Et puis, on va se servir du coup... Alors, ça a des liens du chronomètre. Et puis, très vite, on va se servir de l'image animée. Parce que si on veut analyser les gestes, on va se servir du cinéma, qui date à peu près des mêmes idées d'années. Et d'ailleurs, le taylorisme, c'est contemporain aussi de toute une série de recherches. C'est contemporain de toute une série de recherches sur la photo, l'utilisation de la photo animée, etc. Par exemple, des gens comme Marais ou Muybridge. Ici, c'est un photographe qui s'appelle Muybridge. On s'intéresse à la décomposition du mouvement. C'est une question qui fascine complètement cette époque de la fin du 19e, ne serait-ce que parce qu'avec l'image animée, on a enfin les moyens de l'observer, etc. Du coup, les tayloristes, ils ont deux instruments très vite, le chronomètre et le cinéma. Alors là, c'est une autre vue de Muybridge avec finalement des trucs comme se coucher, c'est des tas de gestes plus ou moins compliqués, etc. Et là, vous voyez, par exemple, les Galbraith, qui sont des disciples de Taylor, une ouvrière au travail, et vous voyez, c'est filmé. Et d'ailleurs, on met même des fois des marqueurs lumineux pour savoir quels sont les gestes, etc. Et vous avez le chronomètre, qui est un instrument fondamental dans cette affaire. Là, c'est sur la pose des briques. J'avais au départ quatre films, mais j'ai supprimé le premier parce qu'il est quand même assez Il est quand même assez chiant, disons-le, sur la pose des briques, parce qu'en fait, les Galbraith vont faire une étude célèbre sur la pose des briques et la meilleure façon de poser les briques, etc. Grosso modo, ce qu'ils remarquent, qui est quand même assez con, c'est que se baisser pour prendre la brique, c'est qu'on perd à peu près 30% d'efficacité, rien qu'à se baisser pour prendre une brique, etc. Donc ils vont essayer de rationaliser les chantiers, je passe là-dessus, mais ils vont avoir une assez grande influence. Bon, un autre exemple en France, c'est Marais, qui fait aussi des études de ce genre. Alors, les tayloristes, ça va pas se limiter à l'usine. Ils vont faire du coup la même chose. Vous parlez de la cuisine. La cuisine moderne, elle naît dans les années 20, en fait, d'expériences tayloriennes sur le travail domestique. C'est-à-dire, et en fait, tous les systèmes de mesures modernes, les prescriptions modernes sur la cuisine, parce que les cuisines traditionnelles, on mettait les trucs un peu n'importe comment, en fait, c'est des trucs qui viennent du mouvement tayloriste. Et en fait, avec quand même l'idée que finalement, la femme, c'est une employée. C'est une employée d'usine à la maison, si vous voulez. Il y a quand même une vision derrière ça assez particulière, et ainsi de suite. Alors, du coup, on va réorganiser l'usine aussi en fonction des capacités des uns et des autres, parce qu'il y en a qui sont meilleurs à certaines tâches, etc. Et donc, et ce qui veut dire une chose, c'est que désormais, la gestion de l'atelier ne se fait plus centralement dans l'atelier, elle se fait dans un truc qui va progressivement devenir le bureau des méthodes dans lequel on va prescrire ce qu'on fait dans les ateliers. Et avec, du coup, la maîtrise change de rôle. On va voir ça concrètement dans les films. La maîtrise change de rôle. Traditionnellement, le contremaître, c'est un genre de garde-chiourme, c'est un surveillant. Ça va devenir quelqu'un qui conseille et que lorsqu'il voit un ouvrier qui fait pas les choses de la bonne façon, va rectifier. Et donc, etc. Alors, dernier point maintenant, ensuite on va passer au cinéma. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce qu'on appelle parfois le taylorisme-fordisme? Ça va être la parcellisation des tâches. C'est-à-dire, Taylor n'imagine pas, lui, qu'on spécialise les gens juste à faire une série d'opérations et c'est tout. On fait encore des séries d'opérations assez complexes chez Taylor. L'espèce de fragmentation du travail où on fait inlassablement la même chose, c'est Ford qui va l'inventer. Et il va l'inventer en liaison avec une autre chose qui est le travail à la chaîne. Et la chaîne, bon, Henry Ford, c'est aussi quelqu'un d'à peu près contemporain de Taylor. Il est un tout petit peu plus jeune. Il vivra par contre beaucoup plus loin. Personnage très étrange aussi, parce que c'est un personnage qui flirtera avec le nazisme dans l'entre-deux-guerres. Enfin, il a des trucs un petit peu borderline, c'est le moins qu'on puisse dire. Personnage qui est aussi un mélange très curieux d'intelligence capitalistique et de générosité. Sa grande idée, alors lui, pour le pacte social de Ford ressemble un peu à celui de Taylor. On va mieux payer les ouvriers, ce qui fait qu'ils vont gagner en efficacité, mais pas seulement. C'est que l'idée de Ford, c'est l'idée de production de masse. Et pour qu'il y ait production de masse, il faut qu'il y ait un public qui achète. Et donc, on va mieux payer les ouvriers pour qu'ils deviennent consommateurs. Et l'ouvrier Ford, il va introduire le salaire à 5 dollars par jour. Ça fait 150 dollars du mois, ce qui à l'époque, c'est le gars qui paye le mieux les ouvriers à Détroit. Et en fait, l'une des idées, c'est qu'on rentre dans un cycle de consommation, on devient le client de Ford. Alors du coup, Ford va inventer donc progressivement la production en série à très grande échelle, qui sera instauré notamment avec la Ford T, c'est la première voiture de masse, vendue en masse et à tout le monde. C'est-à-dire même les pecnos, il y a des études assez rigolotes sur l'utilisation dans les campagnes de la Ford T, où on s'en sert pas seulement de bagnole, elle sert de moteur, des fois. C'est le premier moteur mis à la disposition de la société dans son ensemble. Et puis voilà la première chaîne Ford, c'est encore assez merdouilleux, mais progressivement, ça va prendre forme. Et avec ça, on achèvera finalement de déposséder l'ouvrier de la maîtrise traditionnelle de son travail. Au lieu d'avoir une séquence complète, il fera plus qu'un fragment de séquence, etc. Avec donc des conséquences absolument spectaculaires. Alors Ford, à partir d'un certain moment, Ford, les usines Ford de River Rouge près de la Rouge Rivière près de Détroit vont être un lieu que tout le monde va visiter s'il va en Amérique. C'est l'endroit où tout le monde va voir les usines Ford. C'est les grandes usines qu'il faut avoir vues dans les années 30, etc. Énorme complexe où on a la partialisation des tâches, la chaîne, etc. Et ça va inspirer donc des générations d'entrepreneurs un peu partout dans le monde. Et puis, à partir de là, le taylorisme et le fordisme vont progressivement se combiner. Des ouvriers mieux payés. Et clairement, c'est le début de l'ascension de la classe ouvrière qui était quand même dans une précarité très grande. Il ne faut pas oublier quand même que la classe ouvrière était quand même dans une très grande précarité financière, etc., pendant une large partie du XIXe siècle. Une sortie de la précarité de la classe ouvrière, c'est clair, avec de meilleurs salaires, garantis, etc. Ford lui-même met en point un invraisemblable système de paternalisme. C'est-à-dire que l'ouvrier Ford, il va dans des centres de récréation Ford, ses enfants vont dans des écoles Ford, s'il veut faire de la peinture, il y a des clubs Ford, etc., etc. Donc, une espèce de paternalisme social. Et le deal, c'est qu'effectivement, tu fais plus ce que tu veux, tu fais ce qu'on te dit de faire et au rythme auquel on te dit de le faire. Et c'est donc ça qui va être le grand deal. Donc on va voir maintenant comment deux cinéastes vont parler de ces choses-là, qui sont donc René Clair, un Français, et Charlie Chaplin. L'un est un film qui a été assez oublié, « À nous la liberté », 1931, et l'autre est un film, jusqu'à aujourd'hui, mondialement célèbre, et il y a de bonnes raisons, vous allez tout de suite voir, entre French. French, c'est souvent lent, vous allez voir, c'est lent. « À nous la liberté », c'est une histoire, René Clair a toujours flirté un peu avec une espèce de côté anard. Donc ces deux amis qui s'appellent Émile et Louis, qui sont en prison, là, ils tentent de s'évader ensemble. Il y en a un qui réussit, Louis, alors vous notez, et l'autre qui réussit pas, Émile, qui reste en tôle. Ensuite, Louis, alors vous voyez, il sort de prison, il va devenir un capitaliste plein de succès, donc vous voyez déjà le message. C'est quand même très franchement anticapitaliste, etc. Donc Louis va devenir en fait un entrepreneur de phonographe très successful. Et donc il y a une usine moderne, on va vous montrer, que montre René Clair. Ensuite, l'autre est libéré. Vous allez voir qu'au début, il se fait alpaguer par les flics, avec une séquence inénarrable sur le travail, c'est la liberté, qui fait un peu froid quand ensuite on pense à Arbeit macht frei, mais on est en 1931. Il va rentrer à l'usine, va tomber amoureux de la secrétaire, etc. Puis ça se finit, les deux compères quittent l'usine et retournent sur les grands chemins rigoler comme vagabonds. Donc vous voyez une espèce de curieuse histoire un peu anticapitalisme. Bon, Modern Times, c'est les temps modernes, 1936. En fait, Clair a fait un procès à Chaplin. Et ils ont négocié parce que Chaplin s'est effectivement a pris des idées chez René Clair, même si on va voir l'ambiance des deux films est complètement différente. Alors, on va commencer par le French. Thank you.
ne travaille pas. Nous ne cédons pas que...
Le travail est obligatoire. Car le travail, c'est la liberté.
Le travail est obligatoire. Car le travail, c'est la liberté.
Maintenant, on va passer donc à Modern Times, qui, bon, vous aurez bien compris que politiquement, c'est quand même assez clair le message de ce film, mais Modern Times, c'est plus ambigu.
Section 5, speed her up, 4-1.
Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
Section 5, more speed, 4-7.
Get back to work. Go on.
Bon, je pense que la différence entre les deux films vous a frappé. C'est une des choses quand même assez mystérieuses avec le monde de l'art, c'est à quel point deux films à peu près contemporains, 31-36, il y en a un qui vous fait toujours rigoler, il y en a l'autre, bon, ça fait rigoler, mais enfin quand même mollement, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est quoi la principale différence entre les deux films, à votre avis ? Il y en a un, je ne sais pas si vous avez remarqué, une série allemande, en général, c'est un peu plus lent qu'une série française. Il y en a qui ont vu l'inspecteur Derrick autrefois. Voilà, l'inspecteur Derrick, c'est très, très lent. Les séries françaises, c'est un peu plus nerveux. Puis en général, les séries américaines, ça flingue, ça machin et tout. Le rythme est complètement différent. René Clair, c'est lent, c'est lent. Alors que Chaplin... Et d'ailleurs, l'inhumanité la plus profonde, c'est le rythme entre les deux. Alors vous noterez, il y a des trucs que l'un a vu, l'autre n'a pas vu. Par exemple, les deux s'accordent sur le temps. La pointeuse, elle est présente, oui ? Je vais y venir parfaitement. C'est exactement une des grandes différences. C'est que le premier, Clair, il n'a pas tout à fait tout compris. Il a compris la parcellisation des tâches, comme d'ailleurs Chaplin. Et d'ailleurs, Chaplin s'en est inspiré. C'est-à-dire les gens font des tâches qui semblent devenir complètement dérisoires. Et donc, c'est inhumain de ce point de vue. Mais chez Clair, effectivement, il y a des gardes-chiourmes. Encore, c'est des surveillants, au sens classique. Et donc, c'est comme une prison. Alors que vous noterez, chez Chaplin, le contremaître, c'est le mec qui veille à ce que les trucs soient convenablement faits. Et d'ailleurs, Chaplin, à un moment, lui-même, prend la place du contremaître. Lorsqu'il a fini de se frotter les ongles, il dit « Regarde là », etc. C'est la tâche du contremaître. Donc, il usurpe, en fait, cette tâche de conseiller technique. Et donc, vous vous rendez compte qu'en fait, alors, l'autre chose que voit Chaplin et que ne voit pas Clair, c'est que la déshumanisation s'étend jusqu'au corps. C'est-à-dire, le corps devient une machine. Et en fait, Charlot, il devient un pantin désarticulé lorsqu'il quitte la chaîne, parce qu'il est déformé vraiment très littéralement par le travail qu'on lui fait faire avec... D'ailleurs, ce qu'il demande, je vais y revenir à propos de garder ça en mémoire à propos de Tati, ça demande une très grande maîtrise physique qu'être capable de se déhancher, démantibuler comme ça, comme un pantin cassé. Et ça, Charlie Chaplin est absolument incroyable là-dessus. Mais vous voyez, finalement, l'un et l'autre film capturent quand même... Alors, chez Clair, c'est clair, c'est un espèce de message. Les patrons, tous des voleurs, d'ailleurs, littéralement, puisque celui qui fait fortune, il vient de la prison comme l'autre. Chez Chaplin, ça serait plutôt les patrons, tous des branleurs. Parce que le mec, il est chez... Bon, vous avez dû noter, il est occupé à faire du puzzle et ensuite à lire des comic books de Tarzan. Et c'est à peu près tout, etc. Mais vous noterez que chez Clair, ça s'articule sur un espèce de discours politique très très clair. Chez Chaplin, c'est presque beaucoup plus cynique. C'est-à-dire que c'est un discours... Là aussi, la grande différence, c'est que chez Chaplin, c'est encore plus centré sur l'individu, espèce de côté individualiste, hors duquel il n'y a pas de salut. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est de parler de la diffusion des idées de Taylor et de Ford, for that matter, en dehors de l'Amérique. Donc voilà, 31, 36. Et donc des films qui ont beaucoup de rapports. Ce que je trouve toujours un peu terrible dans le monde de l'art, c'est qu'il y en a un, encore une fois, c'est devenu plutôt un document historique, même si ça se laisse regarder, hein, nous, la liberté. Bon, enfin, alors que Charlie Chaplin, on est encore capable de s'identifier à pas mal de choses qui sont racontées. Alors, le succès de Taylor aux États-Unis, ça va être compliqué d'abord. Il faut peut-être parler de ça d'abord. Aux États-Unis, en fait, parce que Taylor, ça va provoquer au départ, on l'a oublié aujourd'hui, des mouvements de révolte. C'est-à-dire, par exemple, il y a une manufacture d'armes, un arsenal, qui se met en grève à cause de l'application des idées tayloriennes. Et curieusement, un des gars qui va défendre Taylor, c'est quelqu'un dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, bien qu'il ait donné son nom à une université américaine, Brandeis, qui est un juriste, un libéral profondément, donc plutôt quelqu'un de progressiste socialement, qui d'ailleurs sera un des grands juges de la Cour suprême au début du XXe siècle. Et Louis Brandeis, en fait, va prendre la défense des idées tayloriennes en disant « Enfin, vous voyez bien que c'est en fait un système qui œuvre pour le progrès, etc. » Donc assez grande ambiguïté quand même de ce succès de Taylor. Est-ce que c'est un système généreux? C'est pas un système généreux. Aujourd'hui, évidemment, Taylor, ça semble toujours synonyme d'abomination sociale et politique, mais c'était pas le cas. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui va faire fonctionner le taylorisme, c'est la croissance. C'est-à-dire que ce que dit pas Taylor, mais qui est évident, c'est que le gain de productivité, etc., tout ça n'a de sens que dans des sociétés en croissance. Il se trouve que l'Amérique, le secteur manufacturier est en croissance et ça se passe bien, mais c'est plus compliqué par ailleurs. Alors Ford, finalement, la production de masse va se coupler très vite, avec notamment aux États-Unis un boost considérable de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va obliger les États-Unis non seulement à rentrer en guerre, mais en fait à booster encore plus leur système productif en termes, parce qu'il faut fabriquer des obus, des véhicules, etc., etc. Et le taylorisme fordisme va gagner la partie. Alors ce qui est plus intéressant, c'est finalement que ça ne va pas se limiter là. Là, c'est une citation de Lénine, « Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, 1918. Apprendre à travailler, voilà la tâche que le pouvoir des soviets doit poser au peuple dans toute son ampleur. Nous pourrons réaliser le socialisme justement dans la mesure où nous aurons réussi à combiner le pouvoir des soviets et le système soviétique de gestion, c'est-à-dire collectiviste, avec les plus récents progrès du capitalisme. Il faut organiser en Russie l'étude et l'enseignement du système Taylor. » Vous voyez, c'est très très clair. Bon, Lénine qui sort aussi par ailleurs, le communisme c'est les soviets plus l'électrification, donc cette espèce d'idée que la modernité scientifique et technique n'a pas d'odeur et que donc le communisme doit s'en saisir. Alors derrière ça, évidemment, le grand drame, c'est que le système Taylor dans les systèmes capitalistes, c'est un système qui fonctionne sur l'appât du gain. Le système Taylor dans des pays d'économie collective, ça va tout de suite être plus compliqué parce que le système Taylor aux États-Unis, c'est « look at your paycheck ». Mais en Union soviétique, il y a d'autres facteurs qui jouent. Ça va être un des problèmes de l'Union soviétique. La productivité sera toujours un problème. D'où une dénaturation très profonde du système Taylor qui n'était pas un système, encore une fois, héroïque. Il ne s'agissait pas de faire travailler les gens au-delà de toute mesure, etc., avec la promotion de ce qu'on va appeler le stakhanovisme, du nom de cet ouvrier-là, Stakhanov, qui est un mineur, en fait, qui va abattre des quantités de travail fabuleuses, et on va faire la promotion, finalement, des héros du travail de l'Union soviétique, qui abattent plus de travail que les autres, ce qui ne va pas d'ailleurs améliorer les trucs, parce que s'il y a un mec qui fait le travail de 10 hommes, ça va faire 9 autres personnes qui seront tentées d'en faire moins. Et ce qui était exactement l'inverse du système Taylor. Donc en fait, le système va être en quelque sorte perverti et ne marchera jamais complètement. Et ça va être un des problèmes, il faut quand même le dire, l'Union soviétique va perdre la bataille de la productivité industrielle. Elle gagnera d'autres batailles par moment, comme par exemple, elles sont les premiers à envoyer des gens dans l'espace, etc. Mais la productivité industrielle, c'est un problème. Lénine, d'ailleurs, était assez... il avait bien... Lénine, il est conscient d'une chose en 1918, c'est le paradoxe éternel. Marx pensait que le communisme triompherait dans un pays industriel avancé, et c'est un pays essentiellement rural, donc peu au fait des techniques d'organisation du travail dans les usines, etc. Bon, il y avait un peu d'industrialisation en Russie, mais pas à l'échelle des États-Unis, et c'est là où s'implante le communisme. Donc lorsqu'il dit « il faut apprendre à travailler », c'est très littéral. Les Russes ne savent pas à l'époque ce que c'est, l'écrasante majorité de la population russe ne sait pas ce que c'est que travailler en usine. Et d'une certaine façon, le système ne les poussera pas. Le système capitaliste où on te fouette à coup de finalement de fiches de paye, ça marchera mieux, qu'on le veuille ou non. C'est le truc un peu terrible. Alors quelques mots quand même sur la France. La France, les idées tayloriennes... Alors la France est un peu dans une situation un peu intermédiaire entre la Russie et les États-Unis, c'est-à-dire c'est un pays industrialisé, qui fait partie du peloton de tête des pays industrialisés, mais plutôt en queue de peloton. C'est un pays qui reste très fortement rural. Et du coup, d'ailleurs, avec des problèmes de main-d'œuvre un peu récurrents, mais qui, par contre, a des ingénieurs qui adorent les trucs systémiques, rationalisation, système, tout ça. Du coup, le taylorisme va devenir une espèce de religion chez un certain nombre d'ingénieurs. Et le taylorisme va être diffusé par des fervents partisans, par exemple un ingénieur du corps des mines, Henri Le Châtelier, qui, outre ses travaux en thermodynamique, va devenir un propagandiste acharné du système Taylor. Derrière ça, il y a aussi l'idée, quand même, on se pose la question du rôle de l'ingénieur dans ces années-là. L'ingénieur comme organisateur, ça semble être quelque chose qu'on veut développer. Alors ici, c'est le système Taylor Scientific Management par un gars qui s'appelle Bertrand Thompson, qui est un autre propagandiste extrêmement efficace de la cause taylorienne. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont aller aux États-Unis, visiter les usines Ford, regarder les usines taylorisées, etc., et revenir et faire des propositions. Parmi ces gens, il y en a que vous connaissez, Louis Renault. Et l'industrie automobile française va essayer de suivre les principes tayloriens. Et puis, surtout, André Citroën, polytechnicien, qui va, en fait, être un des premiers à utiliser les méthodes tayloriennes fordiennes. Citroën est peut-être un peu plus fordien que taylorien, et notamment à l'usine de Javel à Paris, il va réaliser la première chaîne intégrale dans une usine française. Alors vous noterez, Javel est un espèce de résumé du taylorisme, de même que la gare du 19e siècle, vous avez un endroit pour les hommes et un endroit pour les locomotives. L'usine de Citroën, vous avez vraiment le bâtiment des cols blancs, et puis derrière, les ateliers où on dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Et voilà le plan donc de la chaîne unique de Citroën, qui va être à l'époque quelque chose de très très frappant. Il y a peu d'usines qui réalisent ça et qui va booster quand même l'image de high-tech de Citroën dans les années 30. Ça plaît beaucoup en général aux diplômés des grandes écoles en France, qui ont quand même une légère tendance à avoir un mépris pour le bon peuple ouvrier. Donc du coup, le taylorisme, ça cadre assez bien avec un peu espèce d'arrogance de caste des ingénieurs d'État français, etc. Alors ça, c'est le premier moment, mais qui concerne finalement encore assez peu de gens dans une France qui reste à dominante rurale. Le deuxième moment qui va être beaucoup plus important, c'est l'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le taylorisme va se diffuser en France de façon massive cette fois, en liaison avec un certain nombre de choses. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, et vous allez comprendre tout de suite en voyant le film de Tati la vérité de la chose. La France, en 1945, elle a le PIB qu'elle avait en 1913. Il y a une espèce de drame français du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'en 1913, c'est une nation relativement prospère, traditionnelle. Bon, ça, c'est une photo de 1945. Sauf que ça pourrait être une photo de 1913. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1914, la France rentre en guerre relativement prospère, et puis perd, à la différence des Allemands qui vont gérer un petit peu mieux et qui sont beaucoup plus peuplés, la France est un pays démographiquement faiblard, dont la croissance démographique est faible, très faible par rapport aux autres pays d'Europe. Du coup, on va perdre une génération entière d'hommes. Ça va avoir des effets positifs. Par exemple, les femmes, par exemple, le travail des femmes en France va être considérablement boosté par la Première Guerre mondiale, parce que tous les hommes sont au front, etc. Après la Première Guerre mondiale, ça va un peu mieux dans les années 20. Mais du coup, arrive 29. Alors le drame français, curieusement, c'est qu'en 29, la France est moins impactée que les autres. C'est ce qui est en train de nous arriver d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce qu'on y a une parce que l'économie française à l'époque reste encore à dominant plutôt rurale et donc plus protégée des soubresauts de la conjoncture mondiale que les Allemands ou les Américains. Donc en l'Amérique plonge en 29, résultat vers 32-33, elle remonte. L'Allemagne c'est pareil et remonte aussi à peu près au même moment. La France plonge en 30-31-32 et remonte vers 36. Sauf qu'entre-temps, il y a le Front populaire et la guerre arrive en 39. Et la France n'a pas fini de se reconstruire. Résultat, en 45, les Allemands vont saigner la France d'un point de vue économique, faut quand même le dire. Et en 45, la France se retrouve à la limite du sous-développement. Ce qui explique que les GI, quand ils arrivent en France, il y a des manuels d'ailleurs assez rigolos, on leur dit faut pas offenser les locaux et tout, mais ils ont l'impression d'arriver dans un pays de sous-dev. C'est-à-dire que aux États-Unis, Ford vend des dizaines et des dizaines de bagnoles depuis des années, etc. Ils arrivent dans un pays de pecno, encore très très rural. L'exode rural en France, il va avoir lieu 10-15 ans plus tard. Donc la question française dans l'après-guerre immédiat, c'est il faut rationaliser parce qu'il faut se moderniser parce qu'on n'est plus, on va décrocher totalement. Ça va être la grande question de Gaulle, mais pas seulement, etc. D'où autre question, il va falloir rationaliser parce qu'à partir des années 50, la France va s'urbaniser. Massif exode rural qu'on n'avait pas prévu, mais qui, en 20 ans, va vider les campagnes. Ça va vider les campagnes. Il y a des chiffres étonnants, le chiffre des chevaux de labour. Vous avez des centaines de milliers de chevaux de labour en France encore en 45-50. Vous n'en avez plus un en 60, quasiment. Donc les campagnes se vident, l'agriculture se rationalise. Et qu'est-ce qu'on fait des ouvriers ? C'est le choix de la croissance économique, mais un choix qui va être celle du milieu de gamme. Je crois que je vous l'ai déjà dit, le drame français qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'alors qu'on avait une industrie petite, mais plutôt de luxe dans l'entre-deux-guerres, on va créer une industrie plus massive, mais plutôt moyenne gamme. La bagnole, c'est typique. Quand vous pensez Dream Car, vous pensez rarement Renault. Tout le problème est là. J'ai des copains chez Renault, des fois je vois Renault, c'est le grand drame, Citroën c'est pareil, ils ont créé la gamme DS pour essayer de faire rêver à nouveau, mais l'automobile française n'occupe pas en général les créneaux de luxe. Elle peut occuper les créneaux de l'hyper hyper luxe comme la Bugatti, mais bon, on fait à quelques 4-5 exemplaires, mais pas le créneau de luxe un peu de masse. Donc ça, c'est un problème. Du coup, cette industrie-là, c'est... À ça va s'ajouter une autre chose qui est l'arrivée de l'immigration, notamment du Maghreb. Et du coup, finalement, le système Taylor, ça va apparaître comme le système idéal pour mettre pêle-mêle les pays, les anciens paysans, les gens du Maghreb, etc., tout le monde au boulot, dans de grandes usines modernes. Et en fait, la France va se tayloriser donc de façon massive, avec derrière ça le plus jamais ça. C'est ça, c'est une photo... En fait, le ministère de la Reconstruction fait une enquête sur les conditions de logement. Et la France, ça paraît un pays de taudis. Ce n'est pas complètement, c'est pas complètement vrai. Mais par exemple, à Paris, vous avez une proportion plus que significative des logements qui n'ont pas d'eau courante. Et je ne vous parle même pas des toilettes. Les toilettes sur le palier sont d'une règle très générale en France. Donc tout ce pays... qu'on va moderniser à marche forcée. Et donc, du coup, on va faire un truc, on va voir l'écho que ça a chez Tati, on va envoyer aux États-Unis des missions de productivité dans laquelle on envoie des ingénieurs, des entrepreneurs, etc., pour regarder les bonnes méthodes américaines. Et en fait, on va importer le taylorisme et le fordisme au moment où, aux États-Unis, on commence à se poser des questions sur le fait que ça soit si génial que ça. Mais nous, on l'importe massivement. Et dans les années 50-60 sont des années de taylorisation de la France. C'est pour ça que d'ailleurs l'appareil industriel français, on a tant de problèmes aujourd'hui. Alors ça va toucher aussi le bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment va essayer de s'industrialiser en suivant les méthodes, etc. Et ça donnera toute la problématique de l'industrialisation du bâtiment, du logement dans l'après-guerre. Et puis ça va même conduire à une espèce de gestion du territoire français très particulière, avec une distinction entre les territoires où on décide, de même que, vous savez, dans l'usine de Javel, vous avez le bâtiment des cadres l'atelier des ouvriers, bah, la France, ça va être, on va avoir une vision un peu comme ça, avec des centres de décision dans les grandes villes, et puis les usines à la frontière entre l'ancien monde rural et le monde urbain. Par exemple, à Paris, on va faire des centres décisionnels, et puis on mettra des grandes usines à Cléon, etc., aux frontières entre le monde rural traditionnel et la ville. C'est un film qui sort en 49, qui est filmé, en fait, dans un vrai village qui s'appelle Saint-Sever. Et en fait, c'est un film qui mélange des acteurs et des non-acteurs, essentiellement des non-acteurs. Il a utilisé les gens du village, c'était assez moderne pour l'époque. Et Tati joue le rôle du personnage central, qui est le facteur François. Alors vous allez voir, il parle avec un accent invraisemblable, mais c'était des accents réels. À l'époque, les gens parlaient réellement comme ça. Alors, le film commence, vous verrez, c'est la fête au village, jour de fête. Et en fait, comme cinéma itinérant, vous avez un film projeté sur The American Postman, le postier américain, la poste américaine et ses méthodes avancées. Et vous allez voir que... Alors ça fait partie, quand je disais mission de productivité aux États-Unis, dans le même temps, les États-Unis font de la propagande, parce que n'oubliez pas qu'on rentre dans la guerre froide et que cette question, finalement, de la légitimité industrielle, culturelle, etc., c'est une question fondamentale. Les États-Unis vont avoir pendant de longues années des documents, des journaux, par exemple, parce que ma tante était prof d'anglais, j'avais droit aux journaux, journal auquel je ne comprenais rien de propagande américaine. Ils envoyaient à tous les profs d'anglais français, de peur que la France devienne communiste, des trucs sur la grandeur de l'Amérique. Donc en fait, on projette un film, et le facteur François est un peu humilié, parce que tout le monde lui dit « Regarde François, toi t'es vraiment un plouc avec ta façon de distribuer le courrier ». Et vous allez voir deux forains qui se marrent, qui entreprennent de se moquer de François en rationalisant ses techniques de travail. Et en fait, c'est du taylorisme quasiment à l'état chimiquement pur. C'est assez étonnant à quel point Tati a parfaitement compris ce qui se jouait. Alors, et donc, c'est de ça dont parle ce film.
Il n'est pas un pays au monde où on écrit autant qu'aux États-Unis.
François, les Américains,
des 350 millions de lettres, papier et paquets divers que s'expédient journellement ces 130 millions de correspondants s'effectuent dans le minimum de temps. Alors que bien les pays civilisés en sont restés à des instruments périmés, toujours à l'avant-garde du progrès, les U.S. Post Office ont entrepris de mettre l'hélicoptère à la disposition des postman modernes. Rapidité, régularité, le moment n'est pas éloigné où chaque postier devra consacrer une heure d'entraînement à ce mode nouveau de transport postal. De l'hélicoptère à l'avion, technique irréprochable à laquelle les spécialistes apportent tous leurs soins. Les 10 millions de kilomètres carrés ne comptent pas que des chemins carrossables. Qu'importe! Rien n'arrête le postman Yankee. Pour lui, là où finit la route, le ciel continue. L'absence de terrain d'atterrissage transforme quelquefois le postman intrépide en vulgaire paquet. Admirez la sûreté, le courage, l'héroïsme avec lesquels le postman de l'air, d'abord marché en parachute, reprend son Spitfire. Et oui, les Américains veulent faire de chaque facteur l'acrobate pour qui les difficultés insurmontables deviennent jeux d'enfant. Devise souveraine, rapidité, régularité égale efficacité. Time! Time is money. Les United States Postal Services s'offrent à faire connaître leur méthode aux ministères étrangers qui en manifesteront le désir. Des instructeurs ont été sollicités par plusieurs pays, soucieux de ne pas rester en retard, par la France notamment. Verrons-nous bientôt, disons, le postman français apporter sur notre balcon lettre commerciale, faire part de naissance ou de deuil, facture de gaz ou lettre d'amour. Impossible n'est pas français.
François.
Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas exagéré de dire que dans bien des cas, le facteur peut faire figure de héros. Nous n'en voulons, pour exemple, que cette dernière forme d'entraînement, qui consiste à le familiariser avec tous obstacles susceptibles de couper la route à sa moto-bicycle. Chaque année, dans l'état d'Oklahoma, a lieu le concours du facteur le plus sexy, qui prendra le titre d'Apollon des US Post Office. Que diriez-vous, mesdames, si au moment des étrennes, le postman frappait à votre porte dans ce simple appareil?
T'as vu cette régularité?
Oh, c'est américain, quand même.
Eh ben, François, là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, qu'est-ce que tu fais dans le Pullman? Il va pas en Amérique.
Oh, bah, moi.
À quoi c'est pas un ferry boat?
Oh, le ferry boat, le Pullman. En fait, Pullman, où c'est que j'ai mis ma bicyclette, moi? Ah. Ouais, oh, bah, mon vieux, Vallon à English.
Monsieur le postman. Oh, allez donc. Ça n'a pas l'air d'aller, hein?
Monsieur nous apporte peut-être de mauvaises nouvelles.
Tu crois?
Mais non, il y en a pour les Américains par ci, les Américains par là, le moto bicycle, je peux plus rien toucher.
Allons, monsieur a peut-être tort de prendre la chose trop au sérieux. Les Américains, en avion, c'est les plus forts. Mais en vélo, ils sont pas formidables.
Dis Roger, quand t'étais en Amérique, ouais, t'en as connu un facteur cycliste? Comment il s'appelait déjà?
Ah oui, l'œil de lynx. Oh, allons, Marcel, sois sérieux, non. Monsieur a peut-être besoin de nos conseils. Alors écoute-moi, Marcel,
vas-y.
J'ai l'impression que si monsieur voulait nous montrer sa technique, nous pourrions l'améliorer utilement.
Allez.
Hein?
Venez là.
Allez, montez.
Ça. Venez. Je vous en prie.
Allons-y. Alors, vous êtes en service et roulez à bonne allure. Allez. À votre droite, une maison. Dans votre sacoche, une lettre pour cette maison. Commandez son début.
Je fais le destinataire.
Oh là là. Alors, bon, alors maintenant, voyons la montée. Hein.
La montée?
Oui.
Alors, comme ça, là. Oh, dis donc, ce temps perdu.
Oh, alors là, Marcel, attends. Là, tu vas te régaler. Alors, regarde un peu le travail. Tiens, là. Hop.
Alors là, tu parles, ça fait de l'acrobatie, c'est pour l'apprenti de tout le monde.
Bah tiens, on va enchaîner les deux mouvements à Marseille. Tiens, fais-nous tourner le manège, que monsieur soit pas surpris par la vitesse. Allons-y. Oh. Attention à vos commandements, à fond. Allez, du nerf, attention, à cheval. Attention pour descendre, à terre.
J'ai la main droite dans ma sacoche, et puis la gauche sur ma tête.
Mais non, la droite,
comment
sur la
tête. J'ai les deux mains prises. Je peux pas diriger ma machine. J'ai beaucoup d'escalier, ouais.
Arrive votre vélo, où il est.
Donc, c'est que j'ai mis ma mécane. Ah.
Plus loin.
Alors, je repars. Les forains, là, qu'on va pour le prix François. Ah ben, je tiens ma selle avec la main droite, là. Ben, alors, avec la gauche, je peux pas finir dans ma sacoche, enfin.
Il a raison, Roger, il y a une lacune.
Ah ben, ouais, mais attends, mon pal, on peut pas penser à tout, non, rire.
Comment on dit que je fasse, hein?
Tiens, qu'est-ce que tu dirais d'un léger changement de main dans le mouvement?
Si tu vois la chose possible.
Ben, comme ça, tiens, par exemple. Hop.
Ah ben, alors, comme ça, là. Hop.
Et ben voilà!
Alors comme ça, là.
Vous avez raison. Il a même le temps de saluer dans son changement de main.
Ah ben c'est facile. Mais c'est toujours ce sacré sacoché m'embarrasse, moi. Comment vous voulez que je fasse, hein?
Ah ben attendez, hop!
Ah ben alors comme ça, alors. Eh. Hop!
Voilà! Oh, Marcel, tu te rends compte, tout s'agrouper en plus de son initiative personnelle? Ben moi, je le vois difficile à battre.
Eh ben les gars, vous allez voir.
Il peut gagner une heure sur son oreille.
Oh, ben ça, place serait pas inquiet. S'il veut enfiler un rayon, les Américains, ils peuvent aller se rhabiller.
Allez, les Américains, en l'air! Ça va barder, moi, je vous le dis.
Partez.
Ah. Ah bon. Ah, mon Dieu.
Oh, ça, c'est quelque chose. Ah, c'est pas du bourreau, ça. Oh là 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 là, oh. Ah, je peux pas voir ça, ouais.
Ah ben les Américains, moi, il n'y a pas d'erreur, tiens, rapidité, rapidité. Hop.
Allô, ici le bureau central.
Au revoir, chef.
Allô.
Dépêchez-vous, moi je suis pressé, moi j'ai pas que ça à faire. Le facteur. Rapidité, rapidité. Et au suivant. Et allez, ça roule, ça roule, ça roule. Allez. Je suis pressé, ouais. Alors, vous ne voulez pas? Bon, allez, hop. À l'américaine. Et au suivant. T'as fait ça? Ah, tout le monde roupille là-dedans, ouais!
Oh, eh.
T'es au frais, toi? Prends le temps, rapidité!
Allez, François! Allez, allez, allez! Allez, 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 comment on arrive? Bon, allez. Hélicoptère.
François qui fait sa tournée comme en Amérique.
Hey, Georges, Paul, Albert, Gaston.
Oh, Roger.
Allez, allez, la visière à la verticale, allez, allez,
vite. Et Rondeau, et regarde François qui fait sa tournée à l'américain. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, tu peux dire que tout tombe bien, toi. T'as une lettre. Salut. Bah, j'avais été en Amérique, non?
Finalement, bon, là aussi, Tati, bon, c'est... Ça a vieilli terriblement. Le pire, c'est qu'effectivement, quand les gens parlaient vraiment comme ça, les campagnes... Dans les années 60 encore, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années après ce film, une quinzaine d'années, vous aviez encore des poules, des cochons, toutes sortes de choses, pas toujours très disciplinées dans pas mal de villages, notamment dans les coins reculés, pas dans le nord forcément, mais dans les coins un peu reculés. Mais vous noterez à quel point Tati, il a compris l'essentiel du taylorisme. Il a compris l'essentiel du taylorisme, c'est-à-dire il y a le bureau des méthodes qui est en train de prescrire aux pauvres gars comment faire, etc. Et du coup, un peu comme Chaplin, d'ailleurs, Tati vient d'un univers qui est celui du burlesque. Et le burlesque, une de ses caractéristiques, c'est cette espèce d'extrême contrôle du corps pour produire l'effet d'une désorganisation totale. Tati, en fait, c'était un athlète, c'est un gars qui a fait du cabaret, etc. Et en fait, tous ces films, on a toujours l'impression qu'il va se démantibuler en morceaux comme Charlie Chaplin, etc. Et c'est un contrôle extrême du corps. Il y en a qui ont vu des films de Buster Keaton parmi vous. Buster Keaton, c'est aussi, bon, ça reste hilarant. Certains d'entre eux restent hilarants, le mécano de la générale, etc. Et ça fonctionne un peu sur le même principe. Et en fait, le burlesque, qui est à peu près contemporain, l'essor du cinéma burlesque, de la mécanisation moderne dans les usines, ça pose toujours constamment la question jusqu'à quel point sommes-nous des machines ? Et jusqu'à quel point, vous savez que Bergson, dans Le Rire, au début du XXe siècle, se demande si le rire, c'est pas, nous ne rions pas de façon mécanique, etc. Cette espèce de rapport entre le comique, le corps et la question des machines, ça explique aussi pourquoi le taylorisme est un super sujet pour les burlesques, parce que c'est un sujet qui met en jeu, finalement, le rapport au corps, le rapport, etc. Et puis, on peut facilement en tirer des scènes, entre guillemets, hilarantes. Ça a beau faire rire des générations de gens, la tournée à l'américaine du facteur François. Ce qu'il a très bien capté aussi, c'est l'espèce de fascination, répulsion pour les États-Unis. La France est un pays qui essaye absolument de se distinguer des États-Unis et qui copie littéralement des méthodes des États-Unis des années 20. Alors, je vais terminer, je vous rassure, il y en a pour 5 minutes, 10 minutes maximum, par la question où en sommes-nous aujourd'hui. Vous avez dû souvent entendre dire que le taylorisme, c'est fini, on travaille plus comme ça, c'est vrai que les exigences d'aujourd'hui sont devenues différentes, les grandes séries d'autrefois, elles allaient de pair avec une faible flexibilité, aujourd'hui on demande de la flexibilité. On demande de la qualité, ce qui n'était pas toujours finalement ce qu'on obtenait avec le taylorisme à la fin, etc. On est à la recherche d'un nouveau rapport au travail. Alors tout ça, ça s'enracine aussi dans finalement l'ancêtre de tout ça, c'est la contestation radicale du travail à partir de 68. C'est clair que ces gars-là, ce n'est pas des ouvriers de chez Taylor. Et en fait, tous les mouvements alternatifs vont être à la reconquête, d'ailleurs la reconquête du corps. Un des thèmes du cinéma. Vous avez d'ailleurs là où René Clair est assez prémonitoire avec ce vagabond qui ne fait rien dans les champs. C'est cette espèce de reconquête du corps, du plaisir d'être de l'instant, etc., dont le taylorisme vous prive. Et ça, c'est une des dimensions des mouvements contestataires de 68 et d'après 68. Alors, là-dessus, c'est rajouter la robotisation. C'est qu'il est clair que l'âge des robots, on se dit, est-ce qu'il y a encore besoin d'hommes-machines ? Est-ce qu'il y a encore besoin d'hommes-machines à l'époque des robots ? Vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent « Oui, oui, maintenant, on va tout robotiser, et en fait, on va enfin avoir un revenu minimum, et on sera payé à ne rien faire. » C'est pas impossible, mais pour l'instant, on semble pas trop cheminer vers ça. On semble plutôt ne pas payer les gens à ne rien faire, plutôt que de les payer à ne rien faire. Et puis, vous avez tout le nouveau rapport au travail que veulent promouvoir les GAFA et plus généralement l'économie de l'innovation dans laquelle finalement la frontière s'estompe, le travail disparaît, non pas parce qu'on travaille plus, mais parce qu'on travaille tout le temps et que la frontière entre le travail et le loisir s'estompe totalement. C'est-à-dire très grosso modo, et d'ailleurs le smartphone est un emblème parfait de ça. Sur votre smartphone, votre patron peut vous joindre à tout instant. À minuit, vous pouvez être encore en train d'écrire des mails. Et puis, donc il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit, le travail, le loisir, etc. Vous êtes finalement mobilisable à chaque instant. Mais du coup, est-ce que c'est du travail ? Alors le discours aujourd'hui, c'est assez marrant parce que je vois ma fille télétravail, c'est assez marrant, c'est un phénomène générationnel. Moi, j'aurais jamais pu télétravailler parce que j'étais tenté d'en rien foutre. Alors qu'elle s'installe le vendredi après-midi devant son ordinateur avec un sérieux pontifical et bosse, enfin même le vendredi matin, pardon, et bosse toute la journée, etc. Donc là aussi, avec une espèce de frontière travail, loisir, elle est chez elle ou à la campagne ou Dieu sait quoi, qui est devenue très poreuse. Alors, c'est vrai qu'à certains égards, le tayloriste tel qu'on l'a connu, il n'est plus de mise, notamment dans nos pays. On est peut-être à la fin d'un paradigme qui a dominé, disons, l'industrie pendant à peu près plus d'une cinquantaine d'années. D'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas en train de se reconstituer sous d'autres espèces ? Vous prenez les call centers, eh ben, est-ce que c'est pas du taylorisme ? Vous savez, les gens, on leur donne des instructions, c'est d'ailleurs presque taylorien, on leur dit « Bon, alors si le gars se met à hurler du genre « Moi, ça fait 3 mois que vous me répondez pas, etc. » Vous dites « Oui, monsieur, je comprends tout à fait votre problème. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en rapport avec un opérateur. » Enfin, si vous voulez, il y a des séquences types. Si le mec pète les plombs, voilà comment, etc. Voilà comment... et vous avez, en fait, c'est un peu comme le facteur de Tati, et avec un contrôle des corps, un contrôle du temps, etc. Vous n'êtes pas censé passer un temps exagéré avec un client, etc. Et puis avec des toute une série de choses comme ça. Du coup, est-ce que finalement, ce qui se passe, c'est pas plutôt on détaylorise les usines et on taylorise le tertiaire? Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui, où l'emploi a tendance dans nos pays massivement à migrer vers le tertiaire. Ben, est-ce que finalement les usines, c'est moins fondamental ? Autre question, quid de la Chine ? C'est que dans nos pays, effectivement, mais quand vous êtes l'usine du monde, ben, nos pays, en fait, on a de moins en moins d'industrie, globalement, quand même. Mais quid des pays qui sont les usines du monde ? Et en fait, la réponse, c'est qu'on ne sait pas complètement, mais qu'il est quand même, dans un certain nombre de cas, il est évident que les méthodes tayloriennes, fordiennes, elles n'ont pas du tout dit leur dernier mot. Avec d'ailleurs le même appât, c'est-à-dire qu'en Chine, on va à l'usine parce qu'on est mieux payé qu'à la campagne. Je cite toujours, alors c'est pas chinois, mais il y a, je ne sais pas si vous avez jamais lu ce roman qui s'appelle « How to get filthy rich in rising Asia ». Comment devenir riche de façon choquante dans une Asie en plein développement. Et c'est rédigé, c'est un bouquin pakistanais, un roman, rédigé comme un self-help guide. Donc il y a des chapitres avec ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le premier chapitre s'appelle « Get out of the village ». Donc quitter la campagne à tout prix parce que c'est le lieu où vous allez mourir d'infection ou Dieu sait quoi. Et donc l'usine... Et vous savez qu'en Chine, bon, on est quand même obligé de contrôler les flux de population pour maintenir les gens à la campagne, parce qu'on ne peut pas employer encore tout le monde à l'usine. Mais c'est clair qu'on se retrouve dans une situation comme les pecnos français qui quittaient les campagnes dans les années 50 parce qu'on vivait mieux en ville. Et on était mieux payé, etc. Donc ces incitations, elles existent toujours. Du coup, finalement, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on pourrait croire que la question du travail, c'est une question du passé. Mais si vous regardez les débats d'aujourd'hui, de la grève de la SNCF ou la question du revenu minimal d'insertion, etc., vous vous rendez compte qu'en fait, la question du travail, elle est restée centrale. C'est peut-être la plus grosse hypocrisie de nos sociétés aujourd'hui, c'est de nous faire croire qu'en fait, non, on est dans des sociétés post-tayloriennes, post-fordiennes, et du coup, la question du travail se pose plus. Elle se pose plus que jamais. Qui travaille et pourquoi ? C'est quoi les motifs pour travailler ? C'est clair, par exemple, que parmi les motifs qui ont entraîné la fin du taylorisme, il y a des exigences aujourd'hui de qualité au travail qui avaient quasiment totalement disparu et qui sont remontées. Des exigences de sens. Je pense que dans vos générations, par exemple, une des questions quand même qui revient assez souvent, c'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi le sens de ce que je fais ? Ça explique d'ailleurs des trucs assez marrants. Pourquoi, par exemple, bon, vous êtes encore trop jeune, donc vous allez bosser quelques années en entreprise, la plupart d'entre vous. Mais enfin, il y a des gars qui font leur crise de la crise du trentenaire ou du quadragénaire et qui ont fait HEC, l'ESSEC ou Dieu sait. Ça touche d'ailleurs plutôt les commerciaux souvent, qui ont fait HEC, l'ESSEC ou Dieu sait quoi. Ils vont faire de la boulangerie ou de la menuiserie, passé 40 ans. Moi, j'ai une relation, pas un ami proche, mais une relation qui était cadre supérieur chez Samsung et aujourd'hui à un bar à vin à Versailles. Donc, parce que ça lui semble un métier qui a plus de sens. D'ailleurs, au point de vue horaire, c'est épouvantable d'avoir un bar à vin, mais ça, il a l'impression d'être plus dans un monde qui fait sens. Donc, le sens du travail, c'est une question qu'avait cherché à éluder Taylor au profit de la fiche de Fay, mais qui est revenue. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le travail. Et s'il y a des questions et des réactions, il reste 6 minutes.